Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 24 Esfand, 1400 du calendrier iranien, 15 mars 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'attaque de l'Iran contre la base du Mossad à Erbil a fait 3 morts et 7 blessés parmi les Israéliens. Aucune partie ne peut empêcher l'Iran de parvenir à un accord à Vienne, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. L'Iran soutient tout effort diplomatique visant à mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déjoué une opération de sabotage liée au Mossad israélien. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis devaient renoncer à leurs exigences excessives pour que les pourparlers de Vienne visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien réussissent. Hossein Amir Abdollahian a fait ses commentaires lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue russe Sergueï Lavrov à Moscou. Il a réitéré que les intérêts de la nation iranienne sont très importants et qu'aucune partie ne peut empêcher Téhéran de parvenir à un accord à Vienne. Amir Abdollahian a également déclaré qu'il n'y avait aucun lien entre la situation actuelle en Ukraine et les pourparlers en cours à Vienne. Il a par la suite souligné la position de l'Iran selon laquelle la guerre en Ukraine doit prendre fin et a noté que Téhéran est opposé aux sanctions occidentales contre la Russie. Pour sa part, Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie avait reçu des assurances écrites des États-Unis que les sanctions n'entraveraient pas la coopération dans le cadre de l'accord avec l'Iran. Il a également jugé fausses les suggestions de Washington selon lesquelles Moscou bloque la relance de l'accord avec l'Iran. Les frappes russes sont multipliées à Kiev, la capitale ukrainienne, alors que la campagne militaire russe entre dans son 20e jour. Des bombardements ont touché mardi matin plusieurs immeubles à Kiev, faisant au moins 2 morts au moment où l'armée russe amplifie son action militaire en Ukraine. La mairie de Kiev a imposé un couvre-feu de 35 heures à partir de mardi soir dans la capitale ukrainienne qui vit un moment dangereux et difficile, a annoncé le maire de Kiev. Des combats se sont intensifiés ces derniers jours autour de la capitale ukrainienne, en partie encerclée par les troupes russes. Plus de la moitié de ces 3 millions d'habitants ont fui et la ville est en état de siège, selon un conseiller du président ukrainien. Les forces russes ont également pilonné d'autres villes. Des bombardements nocturnes ont frappé l'aéroport de la ville orientale de Dnipro. Les responsables disent que cela a causé une dévastation massive et détruit la piste. Le ministère russe de la Défense a également déclaré que ses forces contrôlaient désormais toute la région de Kherson dans le sud. Dans le sud, les Russes tentent toujours de prendre Mariupol, ville portuaire stratégique sur la mer d'Azov, assiégée depuis des jours. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran soutenait tout effort diplomatique visant à mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue ukrainien, Hossein Amir Abdollahian a souligné l'opposition de l'Iran à la guerre, que ce soit en Ukraine, en Afghanistan ou au Yémen. Il a qualifié d'importante la récente rencontre entre les hauts diplomates ukrainiens et russes en Turquie et a appelé à la poursuite et à la multiplication des efforts diplomatiques. Amir Abdollahian a souligné l'envoi par l'Iran d'aide humanitaire aux réfugiés ukrainiens à la frontière polonaise, affirmant que l'Iran est également en coopération avec Varsovie pour y stationner une équipe médicale du Croissant-Rouge iranien. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a pour sa part apprécié la position et les efforts de l'Iran, soulignant que Kiev cherche à mettre fin au conflit. Le président iranien appelle les organisations internationales à rompre leur silence sur l'exécution massive de personnes innocentes par l'Arabie saoudite. Le président Ibrahim Raisi a critiqué les pays qui se proclament défenseurs des droits de l'homme pour leur approche passive vis-à-vis des comportements brutaux et inhumains de Riyad. Il a déclaré que les doubles standards et le silence de l'Occident sur ces exécutions montrent qu'ils utilisent les droits de l'homme comme un outil politique afin de servir leurs propres intérêts et contre les États indépendants. Les réactions ont suivi l'annonce par l'Arabie saoudite de l'exécution en une seule journée de 81 personnes pour des accusations présumées liées au terrorisme. Le corps des gardiens de la révolution islamique a arrêté un groupe de personnes qui cherchaient à commettre un acte de sabotage contre les installations nucléaires de Fordo. Des agents des services de renseignement israéliens ont tenté d'approcher un employé de l'usine de Fordo en recrutant d'autres personnes. Les suspects ont reçu des paiements en liquide et sous forme de monnaie virtuelle de façon à ne pas laisser de traces. Le rapport indique que c'était la nouvelle tactique du régime israélien après avoir échoué pendant des années à nuire à Fordo, qui est l'une des principales installations nucléaires de l'Iran. Israël a ciblé à plusieurs reprises des installations nucléaires iraniennes. L'Iran a averti qu'il ne tolérera pas les menaces venant de l'Irak voisin au lendemain d'une attaque de missiles revendiquée par les gardiens de la révolution islamique contre un centre stratégique d'Israël dans le Kurdistan irakien. Il n'est en aucun cas acceptable qu'un de nos voisins avec qui nous entretenons des relations profondes deviennent une source de menace pour la République islamique d'Iran, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Et enfin, deux Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans deux secteurs différents de la Cisjordanie occupée. Selon l'armée israélienne, le premier aurait tiré sur des soldats qui ont répliqué et le second a été tué lors d'une émeute dans un camp de réfugiés. Un adolescent palestinien a été tué lors d'une opération de l'armée israélienne dans le camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Nader Haïssam Rayan, 16 ans, a été mortellement blessé par plusieurs balles à la tête, à la poitrine et à la main, a fait savoir le 15 mars le ministère palestinien, sans donner d'autres détails sur les circonstances de l'accident. Un porte-parole des gardes frontières israéliens, une unité déployée en Cisjordanie, a indiqué qu'un Palestinien avait tiré vers les forces israéliennes qui ont répliqué et l'ont tué. L'échange de tirs s'est produit alors que les forces israéliennes quittaient le camp de Balata après avoir arrêté un Palestinien recherché par Tel Aviv. L'attaque au missile du corps des gardiens de la révolution islamique contre une base secrète du Mossad dans le nord de l'Irak a ciblé 10 membres israéliens, tuant 3 d'entre eux et faisant 7 blessés selon un rapport. 12 missiles Fateh lancés par le corps des gardiens de la révolution islamique ont frappé la base du Mossad à Erbil vers 1h20 du matin, dimanche. L'opération a jusqu'à présent tué 3 personnes, dont 2 officiers supérieurs, et les estimations font état de 7 blessés, dont certains sont probablement dans un état critique, a déclaré la source non identifiée. La source a déclaré qu'une ambulance aérienne avait été demandée à la ville allemande de Stuttgart, peu après l'attaque de dimanche, mais que l'ambulance a atterri au Qatar en raison des problèmes de sécurité. Les troupes américaines auraient utilisé un avion C-130 pour transporter les morts et les blessés. Cette opération envoie un message à tous les pays de la région que la République islamique d'Iran est sensible aux activités du régime israélien près de ses frontières et ne les tolère pas, a déclaré la source. Jeudi, la mission permanente de l'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies a écrit au secrétaire général de l'ONU et au Conseil de sécurité, déclarant que Téhéran se réserve son droit naturel à la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour répondre à un tel acte criminel chaque fois qu'il juge opportun. La source de sécurité iranienne a décrit la base du Mossad à Erbil comme non officielle et cachée sous la forme de 2 villas qui avaient une apparence normale. Au moment de l'attaque au missile de dimanche, plus de 10 personnes était entrée dans l'installation, a indiqué la source. Elle a noté que l'opération avait eu lieu après que Téhéran a averti les responsables irakiens lors de 2 réunions officielles que leur territoire était utilisé comme rempart de lancement pour des attaques hostiles contre l'Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, dans son communiqué de presse de lundi, a également déclaré que Téhéran avait mis en garde les autorités irakiennes dans le passé contre l'utilisation de leur territoire par les tierces contre la République islamique d'Iran.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les progrès acquis depuis quelques années en Afrique semblent anéantis, d'une part à cause du Covid, mais de l'autre part, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Depuis qu'on exerce des sanctions à l'encontre de la Russie, les prix des denrées alimentaires, également des prix des carburants ont augmenté. Donc, ce qui n'arrange pas les choses, l'Afrique, déjà un continent très vulnérable, donc sera affaibli davantage. Avant même qu'on parle de l'Ukraine, de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'Afrique avait connu une inflation importante et une baisse de son PIB considérable. Nous allons essayer de trouver des solutions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Transmis le 10 mars, Kristalina Georgieva est revenue sur les conséquences de l'invasion russe en Ukraine sur les économies africaines. L'Afrique est particulièrement vulnérable aux impacts de la guerre en Ukraine par le biais de quatre canaux principaux. Augmentation des prix des denrées alimentaires, hausse des prix de carburant, baisse des revenus du tourisme et potentiellement plus de difficultés à accéder aux marchés de capitaux internationaux, a indiqué la directrice générale de FMI à l'issue d'une rencontre organisée le 9 mars avec les ministres africains des Finances, les gouverneurs des banques centrales africaines et les représentants de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. La guerre en Ukraine dévaste la vie de millions de personnes et affecte gravement l'économie ukrainienne. La guerre et les sanctions sans précédent imposées à la Russie ont des conséquences d'une portée considérable. Elles surviennent à un moment délicat pour l'Afrique, a-t-elle ajouté. Mais l'Europe, elle-même touchée par cette guerre, se trouvant en pleine crise, est-elle réellement en mesure d'aider une Afrique qui a montré durant toutes ces années qu'elle est capable de s'appuyer sur ses capacités et faire face à tout genre de complots et de tentatives de déstabilisation?
Voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos deux chers invités, en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur, et bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité, qui est, je crois, M. Michel.
Voilà, exactement, tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles cette fois. M. Michel, bonjour.
Je n'entends pas.
Voilà, M. Luc Michel, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Bon, nous allons essayer de joindre M. Luc Michel depuis Bruxelles tout à l'heure. Ma première question va s'adresser à M. Pierre Dortiguier depuis Toulouse. Oui. M. Dortiguier, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bien sûr, ont des conséquences très négatives sur l'Europe et tout le monde entier. Mais nous allons essayer de parler plus particulièrement à propos de l'Afrique. Les sanctions exercées à l'encontre de la Russie, bien sûr, auront des conséquences économiques néfastes pour la Russie, mais également pour le monde entier. Que pensez-vous?
Oui, en effet, il s'agit là, disons, de... comment pour le dire en un seul mot, d'une crise, comme on dit autrefois, interne à l'ensemble du capitalisme mondial, dans lequel, évidemment, que ce soit la Russie qui suit la Russie, autrefois l'Union soviétique, et tous les pays, les États-Unis, mais seulement, tous les États et toutes les anciennes colonies, sont impliqués, vous voyez. En ce sens, le monde forme une unité. On parle d'une division de blocs, oui, mais en réalité, ces blocs sont unis par un marché. Vous voyez, c'est le paradoxe de cette guerre qui, finalement, est une sorte de guerre intestine. Ce n'est pas une guerre de conquête à laquelle nous assistons seulement en Ukraine. C'est une guerre, disons, de défense, peut-être, contre une crise économique qui, elle, est inhérente, peut-être, je dis peut-être, mais vraisemblablement, à la manière de vivre. Bon, ceci, on ne peut pas le changer. C'est ce qu'on appelait autrefois le capitalisme. Bon, je dis ça sans aucune nuance, ni de gauche, ni de droite. Mais l'Afrique, elle, est entraînée là-dedans. Alors, le drame de l'Afrique que Mme Georgieva, la directrice bulgare donc du Fonds monétaire international, a indiqué, me semble venir de ce que, comme on disait autrefois, elle est mal partie. Il y avait un livre en 1960 qui le disait. Et en effet, au lieu que l'Afrique, disons, s'occupe d'un développement intérieur adapté à sa nature propre, les dirigeants, les uns et les autres, disons, formés à l'école occidentale ou à l'école russe, ont voulu, disons, appliquer des modèles extérieurs à l'économie africaine. Et donc, disons, ceci ne passe pas. Et maintenant, nous sommes en état vraiment de crise, c'est-à-dire que les défauts apparaissent, les manquements apparaissent. Et je crois que ceci vaut pour beaucoup de sociétés, bien sûr. La France est touchée par la hausse de l'essence, par exemple. Mais également, nous savons que nous allons vers une crise financière et économique considérable. Et l'Afrique, elle, au lieu de, à mon avis, c'est le reproche que l'on peut faire à l'ensemble des élites africaines, pas au peuple africain, c'est d'avoir voulu imiter des modèles extérieurs, au lieu de trouver un modèle intérieur de développement. Vous savez, je conclurai en disant qu'il y a la formule de l'imam Khomeini, ni Est ni Ouest, vous voyez. Bon, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'Afrique apprenne à être elle-même, voyez-vous, et sans avoir à changer, disons, de, comment vous dire, de zone d'influence. Ceci vaut pour l'Afrique du Nord, pour le Maghreb, mais également encore plus, à mon avis, pour l'Afrique subsaharienne.
Oui, tout à fait. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour professeur Dortiguier, et toujours heureux d'être parmi vous.
C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission, M. Michel. Alors, M. Pierre Dortiguier considère cette guerre entre l'Ukraine et la Russie non pas comme un conflit, mais comme une crise économique, car cette crise justement a des impacts extrêmement néfastes, pas seulement pour la Russie et l'Ukraine, mais également pour l'Europe, mais particulièrement pour l'Afrique, un continent très vulnérable. Que pensez-vous?
Écoutez, pour une fois, je suis d'accord avec certains experts sérieux de l'Occident. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est qu'un prétexte. L'Express à Paris a publié un éditorial très intéressant, dont je partage l'analyse ce vendredi. Il a dit que les buts de guerre de Poutine, c'était en réalité de briser l'hégémonie militaire occidentale et de détruire l'hégémonie économique occidentale, cela par la guerre suicidaire que les Américains ont tenté et que les Européens ont poursuivi. Ce qu'on constate actuellement, c'est tout simplement, il y a par exemple le professeur Ernst à l'université de Liège qui explique que ce passé du gaz. Les autres experts annoncent un choc pétrolier plus important que celui lors de la guerre du Kippour en 1972. Voilà ce qu'on retient de l'affaire. Au milieu de tout ça, l'Afrique, évidemment, elle est prise en otage. Elle est prise en otage par les Occidentaux qui n'ont pas changé de logiciel et qui ont essayé de recruter des mercenaires, c'est-à-dire de l'infanterie coloniale, comme en 1914 ou en 1943, à l'indignation de tous les chefs d'État occidentaux, dont Macky Sall, le président de l'Union africaine. C'est une erreur fondamentale. La majorité des masses africaines et 17 pays africains qui ont refusé de se prononcer sont derrière Poutine. Pourquoi? Tout simplement, il faut une fois de plus écouter aussi les Occidentaux. Moi, je crois que se faire enseigner par l'adversaire est un honneur et un devoir. Il y a un éditorial ce matin dans Jeune Afrique sur les conseillers de Poutine en Afrique. Ils expliquent dans une introduction qui est très intéressante que Poutine capitalise sur l'héritage soviétique. Moi qui suis en permanence sur les plateaux de télévision, en compagnie de camarades panafricanistes, je vois seulement que l'admiration pour Poutine, ce n'est pas seulement pour son action en Afrique depuis 2015-2016, mais c'est aussi l'héritage de celui qu'on appelait Brejnev africain dans les années 1970-1980, et aussi l'héritage de la conférence de Bakou à partir de 1922. L'Afrique, elle est frappée au corps, d'une part par la guerre gazière, la guerre américaine du gaz en Ukraine, mais qui va avoir des conséquences, puisque les Américains voudraient ruiner les autres économies gazières, les économies proche-orientales. On voit que les Émiratis et les Qataris se tournent vers le bloc de l'Est, c'est un retournement géopolitique, mais également sont visées les économies gazières du Sénégal, de l'Algérie et de la Guinée équatoriale. Deuxième domaine dans lequel l'Afrique va être victimisée, c'est le domaine des fournitures de blé. Les deux plus grands fournisseurs de blé mondiaux, à hauteur de plus de 90%, c'est la Russie et l'Ukraine. Les fournitures de blé vont donc de l'aveu même d'Emmanuel Macron, qui est d'un cynisme incroyable. À cause de la politique de l'Union européenne, les fournitures de blé en Afrique vont s'interrompre pendant un an et demi, et ça va être une crise alimentaire et une crise financière dans toute l'Afrique. L'Afrique, maintenant, est en train de le comprendre. Les masses panafricaines, en tout cas, et certains dirigeants, il n'y a pas d'alternative. La liberté de l'Afrique, elle passe avec l'Union, avec le bloc de l'Est, avec la Russie, la Chine et l'Iran, et pas du tout avec les Occidentaux. Les Occidentaux apportent la guerre, les guerres extérieures, ils apportent l'appauvrissement, ils apportent les guerres économiques. Ça doit suffire, évidemment. Et ce qui s'est passé de 1960 à 2015, ça ne peut plus durer. On n'est plus autant de Tintin au Congo ou autant de Focard et du général de Gaulle.
Absolument. Pierre d'Ortiguier, j'aimerais qu'on se concentre davantage sur l'Afrique et qui, donc, d'après donc, M. Luc Michel, on essaye d'affaiblir plus que jamais l'Afrique. Déjà avant que le conflit entre l'Ukraine et la Russie aient lieu, on avait une baisse des PIB donc, de ce continent, une baisse considérable, une inflation importante. Donc déjà, l'Afrique était en crise, malgré le fait que pendant des années, l'Afrique avait connu des progrès importants. Oui. Mais ces progrès semblent anéantis depuis qu'on a eu cette crise sanitaire. Mais cette fois, cette crise, même si l'Afrique, comme le Mali ou le Burkina Faso ou le Niger, se tourne vers le bloc de l'Est, la Russie en particulier, mais les impacts sont là, donc l'augmentation des denrées alimentaires ou l'augmentation des prix du carburant pour un pays et pour un continent déjà très vulnérable aura des impacts néfastes, n'est-ce pas?
Oui, en effet, et ceci, donc je me permets d'y insister, modestement, mais d'y insister, que ceci vient de ce que les Africains, quels que soient les régimes, mais les Africains, je veux dire, de façon anthropologique, enfin de façon, disons, à prendre les choses comme elles sont, disons, non pas d'après les idéologies, n'ont pas cherché, j'entends leurs élites, à trouver un modèle de développement qui soit adapté à l'Afrique. Ça, c'est une chose qui est, que nous sentions, nous autres, dans ma génération, lorsque nous étions envoyés en coopération. Je n'ai pas été envoyé en coopération. Je n'ai pas voulu avoir la coopération en Afrique noire parce qu'un de mes amis était revenu avec le paludisme. Alors j'ai pris la coopération en Tunisie. Et je m'apercevais que, évidemment, le regard des élites était toujours vers les anciennes puissances, soit coloniales ou non coloniales, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis. Mais on ne cherchait pas à, disons, développer une sorte de modèle proprement africain, c'est-à-dire proprement local, si vous voulez. Je sais bien qu'il faut des échanges, mais il faut que l'industrie, la technique s'adapte à la mentalité, à la capacité, et même trouver, surtout du point de vue alimentaire, il est quand même effrayant de penser que l'Afrique souffre de problèmes alimentaires. C'est une chose qui vient de ce que, à mon avis, les élites se sont coupées du peuple. Ce n'est pas qu'elles soient mauvaises, mais elles ont été attirées, et j'en veux une preuve, un symptôme. Monsieur, c'est l'immigration. Je vois chez moi, par exemple, en France, beaucoup de gens de la moyenne bourgeoisie africaine s'installent. Bien. Et vraiment, je dirais que ce que je peux reprocher, c'est, ce n'est pas des reproches intellectuels ou politiques, mais c'est un reproche de, c'est un manque de sensibilité. Voyez-vous, quand on vit en dehors de son peuple, quand on ne songe qu'à ses intérêts, évidemment, comment vous dire, l'arbre devient sec, l'arbre n'a plus ses racines, voyez-vous. Et c'est ce qui arrive malheureusement, et je crois que nous devons nous attendre d'ailleurs à une grande émigration africaine vers l'Europe. Oui, et ce n'est pas que je le reproche, que je le déplore, mais disons que c'est quelque chose qui est au détriment du développement africain, voyez-vous, surtout si la classe moyenne, qui est en formation, la classe moyenne, ce que Marx appelle la petite bourgeoisie, avec souvent un peu de mépris, elle est nécessaire à un pays, voyez-vous, et c'est celle-là qui doit fixer la stabilité du pays. Je crois que les États, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, ont trop tourné le regard vers l'extérieur, sans un développement interne, voyez-vous. Ce qu'a fait, je me permets de faire la conclusion ainsi, regardez par exemple l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne est prête, qui a investi énormément en Russie, voyez-vous, elle est prête à une deuxième solution, celle du gaz de schiste. Mais elle tient les deux solutions, voyez, parce qu'elle songe, on y parle beaucoup de l'Allemagne, elle songe, disons, elle vit dans l'intériorité, elle vit sur elle-même, le plus possible. Je crois que c'est un exemple dans la pensée philosophique, mais un exemple également dans la conduite. Et je crois que tant l'Union européenne aujourd'hui, qui se partage, que ceux qui sont pour les Américains, ceux qui sont dans l'opinion française pour les Russes, ne voient pas qu'un développement est d'abord un effort personnel et sur soi, un effort d'intériorité. Comment vous dire, la santé n'est pas quelque chose qui vient par imitation du voisin, c'est par la pratique personnelle que vous avez. C'est cela un peu, disons, le sens de la signification de la crise qui atteint par exemple l'Afrique, voyez-vous. C'est un symptôme d'une faiblesse antérieure, ce n'est pas simplement le résultat d'un accident extérieur.
Luc Michel, M. Pierre d'Ortiguier pense que les responsables africains se sont détachés du peuple, au détriment du peuple justement. Est-ce que d'après vous, ce n'est pas le cas pour les pays européens également?
Écoutez, l'Afrique elle est prisonnière d'un double mécanisme, un mécanisme financier économique. On pense souvent à la France-Afrique et au français CFA, mais également le Commonwealth, avec l'hégémonie de la City de Londres. Par exemple, les 5 plus grandes banques du Nigeria dépendent de la City de Londres. Et depuis 2019, avec le Brexit, il y a un renouveau de l'impérialisme anglo-saxon, c'est-à-dire que Washington et Londres agissent de façon économique en concert en Afrique. Le second mécanisme, il est culturel. C'est expliqué par Frantz Fanon. Je connais bien la pensée de Frantz Fanon parce que j'ai été ami en Libye avec son secrétaire Marcel Vanville, le regretté Marcel Vanville, le fondateur du BRAP. Fanon a écrit un livre fondamental, c'est peau noire, masque blanc. Il explique que le colonisé est colonisé dans sa tête. Ce qu'il a écrit pour les Africains, c'est également valable pour les élites atlantistes européennes. Moi, je me sers de Frantz Fanon pour expliquer la suggestion des Atlantistes à l'Empire américain en Europe. Tous ces gens sont américains dans leur tête, tous ces gens africains sont occidentaux dans leur tête. Il faut commencer par décoloniser l'homme africain et l'homme européen dans sa tête avant de décoloniser économiquement et militairement. Mais il y a un renouveau en Afrique. Les jeunes africains, les masses africaines n'ayant pas d'africanisme, n'ont plus cette suggestion. Nous ne sommes plus en 1960. Il y a aujourd'hui des chefs d'État, moi je les fréquente, le regretté Kourounis au Burundi, Ndayishimiye au Burundi, le regretté Maréchal Idriss Déby, Obiang Mbamba Sogo, le premier d'entre eux, en Guinée équatoriale, Touadéra ou encore Assimi Goïta. Eux, ils appartiennent à une autre génération. Ils ne sont plus colonisés dans leur tête. C'est pour ça qu'ils sont des ennemis jurés de la France qui veut les détruire. C'est ça que les Français n'ont pas compris. Ils croient encore qu'ils sont en 2010 ou en 1960. Quand je vois qu'ils sont venus recruter en Afrique des mercenaires africains pour faire la guerre en Ukraine, ils ont commis une faute psychologique absolue qui est en train de les couler définitivement psychologiquement en Afrique.
Monsieur Luc Michel, est-ce qu'on peut croire que vous êtes optimiste? Car cette mobilisation d'indépendance a déjà commencé, au Mali en particulier. Donc, est-ce qu'on peut être optimiste à l'égard de l'avenir de l'Afrique?
Je ne suis pas optimiste seulement en Afrique. Vous savez, je fêterai l'année prochaine mes 50 ans de vie militant. J'ai connu beaucoup de défaites et beaucoup d'échecs. J'ai vu mourir les pays que j'aimais, qui étaient les miens, l'URSS, la RDA, la Yougoslavie, la Jamaïria libyenne. J'ai combattu pour eux en vain, parce que le rapport de force était très supérieur. Mais maintenant, avec Poutine, avec le renouveau de la Russie, avec ce que je vois en Ukraine, avec ce que je vois en Afrique, je crois de nouveau que la victoire est possible et j'espère encore les voir à la fin de ma vie. Oui, je suis optimiste et je le suis particulièrement en Afrique parce que là-bas, nous avons fait un immense effort. Vous connaissez la théorie d'Antonio Gramsci, le leader communiste italien. Il dit qu'avant de prendre le pouvoir politique, on prend le pouvoir culturel. C'est vrai aussi en géopolitique. Nous avons travaillé pendant des années après la chute de la Jamaïria en Afrique pour préparer l'arrivée des Russes, pour préparer les masses panafricaines à se séparer du monde occidental. Et aujourd'hui, nous avons le succès. Tout simplement, les jeunes Africains nous suivent. Une chaîne comme Afrique Média, 220 millions de téléspectateurs. Le Zoom Afrique de Presse TV est suivi par toutes les élites africaines. C'est une révolution culturelle. En Afrique, la bataille médiatique, nous la menons avec succès contre les Occidentaux. Il y a des rapports du Pentagone qui me présentent comme l'un des 5 influenceurs en Afrique de la politique russe et une étude de France Télévisions qui dit que je suis parmi les 5 top influenceurs de la politique africaine en France et en Afrique centrale. Cela me rend optimiste. Oui, la victoire est possible. Elle est possible aussi grâce à un homme. Il faut lui rendre hommage. Il s'appelle Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on organise sur les plateaux de télévision de LCI, par exemple, des débats. Faut-il assassiner Poutine? Ou des journalistes et des généraux français expliquent que le mieux, c'est de lui mettre une balle dans la tête au détour d'un couloir du Kremlin. C'est le degré d'abjection dans lequel sont descendus les Occidentaux en pleine panique sur tous les Français.
Pierre Dortiguier, à votre tour, est-ce que vous êtes également d'accord avec la position de M. Luc Michel? Est-ce que vous partagez son optimisme à cet égard? Est-ce que la victoire est possible pour les Africains, malgré donc les impacts économiques et de la guerre?
Je fais abstraction, ce n'est pas du tout une critique, mais disons, je mets de côté ce qu'il dit sur l'Union soviétique, que j'ai traversé, la Chine que j'ai connue au début de la révolution culturelle. Bien, j'étais moi-même, vous savez, en politique, après le départ du général de Gaulle, j'étais un de ses archivistes, pour il m'en avait remercié personnellement. Donc j'avais une vision qui était, je répète encore, ni Est ni Ouest, mais une vision indépendante. Ceci dit, je suis optimiste quand... sur un seul point, c'est le fait que les masses africaines, sans aucune nuance péjorative, sont plus mûres qu'autrefois, qu'il y a en effet une génération qui n'est plus celle, disons, des gens soumis des années 60. Bien, je me rappelle très bien aussi, il a cité M. Michel Frantz Fanon, qui a marqué notre génération, c'est vrai, mais je suis très pessimiste quant à l'affrontement, disons, de deux systèmes, système américain et système, que je dirais russe, mais pour moi, qui est la suite du système soviétique, ce qui n'est pas une critique, c'est un fait. Et je dirais, comme ayant été formé à la philosophie, sans aucune orgueil, vous savez, mais je reprendrai la formule du philosophe allemand Heidegger, Martin Heidegger, qui dit « Américanisme et soviétisme sont des formes, disons, de pensée superficielle ». Et je crois que c'est cette pensée superficielle qui conduit, elle n'est pas fausse, il n'y a pas que des faussetés, mais il y a être superficiel, c'est ne pas voir les racines populaires, les racines sensibles, ne pas voir l'entier de l'être humain, c'est-à-dire ne se fier qu'à l'homme économique, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire, et c'est ça qui me rend pessimiste, justement, de ce point de vue, non pas sur l'Afrique, non du tout, mais quant à l'affrontement, à mon avis, fatal, les deux systèmes qui, peut-être, aux yeux de Dieu, n'en font qu'un seul.
Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. L'Iran et la République d'Azerbaïdjan se prononcent en faveur du développement de leurs relations près des bilatérales. Dans son message de félicitations à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le président azerbaïdjanais a déclaré « Je crois qu'il existe aujourd'hui de nombreuses perspectives de développement pour la coopération mutuellement bénéfique entre Téhéran et Bakou ». Dans un message adressé au président iranien Ebrahim Raisi, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a félicité le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Je vous félicite cordialement ce jour important partagé entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales et j'adresse mes meilleurs voeux à la nation, amis et frères de l'Iran, a écrit le président Aliyev dans son message. La volonté de nos nations qui puisent ses racines dans les affinités religieuses et culturelles est le fondement principal des relations entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran qui sont basées sur le respect mutuel et le bon voisinage. Le niveau élevé des relations amicales d'aujourd'hui est le résultat des activités conjointes de nos deux pays au cours de la 30 dernières années. Au cours de ces années, de nombreux déplacements réciproques, des documents signés, des accords conclus et des projets communs ont joué un rôle important dans le développement de notre coopération dynamique dans divers domaines politiques, économiques, des transports énergétiques, culturels et autres. Lit-on toujours dans le message du président azerbaïdjanais adressé à son homologue iranien Ebrahim Raisi. L'Iran et le Qatar soulignent la nécessité de poursuivre les accords conclus lors des pourparlers de Doha. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar et le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran ont souligné la nécessité de poursuivre sérieusement les accords conclus lors de la récente visite du président iranien et de l'émir du Qatar au pourparlers de Doha. Lors d'une conversation téléphonique, le ministre qatari des Affaires étrangères, le Cheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, ont discuté des derniers développements bilatéraux, régionaux, internationaux et des pourparlers de Vienne. Concernant les pourparlers de Vienne, Amir Abdollahian a fustigé les États-Unis pour avoir soulevé de nouvelles questions et a souligné que la République islamique d'Iran travaillait sérieusement pour parvenir à un accord ferme et durable. Lors de cette conversation téléphonique, le ministre qatari des Affaires étrangères a aussi souligné l'importance des relations Téhéran-Doha et les effets positifs de la récente rencontre du président Raisi avec l'émir du Qatar et des effets positifs de sa récente visite au Qatar, qualifiant les efforts de la République islamique d'Iran et de toutes les parties d'importants pour parvenir à un accord. Toujours lors de cette conversation téléphonique, les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre sérieusement les accords conclus lors de la récente visite du président iranien au Qatar. L'ONU met en garde contre une famine imminente, l'effondrement de l'économie au Yémen. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a averti que des millions de Yéménites risquaient d'être touchés par la famine en raison de la guerre qui dure depuis des années dans le pays et de la forte détérioration de son économie, demandant une action urgente. Les enfants au Yémen meurent de faim, non pas par manque de nourriture, mais parce que leurs familles n'ont pas les moyens d'en acheter, a déclaré l'UNICEF dans un communiqué publié sur Twitter. Selon l'organisation onusienne, l'impact de l'effondrement économique sur la crise humanitaire au Yémen ne peut être sous-estimé. Sans action urgente, des millions de personnes pourraient être plongées dans la famine, a-t-elle également averti. Par ailleurs, d'après la mission de l'UNICEF au Yémen, près de 400 000 enfants de moins de 5 ans sont en train de passer de la malnutrition aiguë à la malnutrition aiguë sévère. À noter que la coalition d'agression dirigée par l'Arabie Saoudite mène depuis mars 2015 une agression contre le peuple yéménite, une agression qui a causé la destruction des infrastructures vitales du pays, qui a causé la destruction des zones résidentielles du pays et de la guerre au Yémen a fait plus de 233 000 martyrs, près de 80% de la population, soit environ 30 millions d'habitants, dépend désormais des aides et des subventions dans la pire crise humanitaire au monde, selon l'Organisation des Nations Unies. Les groupes palestiniens de résistance ont critiqué l'accueil du président israélien Herzog en Turquie. L'accueil qui est, selon eux, une trahison d'Al-Ros et de la Palestine. Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, a déclaré qu'il suivait avec une grande inquiétude les visites de responsables et de dirigeants de l'entité sioniste dans un certain nombre de pays arabes et islamiques, dont la plus récente est la visite du président de l'entité sioniste, Isaac Herzog, dans un certain nombre et des pays de la région. Le Hamas a exprimé son regret pour sa visite à nos frères dans les pays arabes et islamiques que nous considérons, a-t-il précisé, comme une profondeur stratégique pour notre peuple palestinien et sa cause juste et nationale. Dans sa déclaration, le Hamas a déclaré, je cite, « le rejet de toute forme de communication avec notre ennemi qui viole nos droits et poursuit son siège et son agression contre notre peuple dans la bande de Gaza ». Fin de citation. De son côté, le mouvement du djihad islamique en Palestine a dénoncé l'accueil de Herzog en Turquie, soulignant que cette visite intervient sur fond de l'escalade agressive et sioniste menée, je cite, contre notre peuple à Al-Quds et des plans de l'ennemi visant à judaïser les lieux saints et à profaner la mosquée Bebeni d'Al-Aqsa. Cet accueil représente un parti pris envers l'ennemi face au djihad du peuple palestinien, précise toujours dans son communiqué le mouvement du djihad islamique de Palestine, avant d'ajouter chercher à rétablir les relations avec l'ennemi sous prétexte de l'intérêt de tel ou tel pays est une trahison d'Al-Quds et de la Palestine. Pour leur part, les comités de résistance palestinienne ont affirmé que de recevoir le président sioniste en Turquie à la lumière de l'escalade et du terrorisme sioniste contre toutes les composantes et les lieux saints du peuple palestinien est un acte rejeté et condamné. Rappelons que le président israélien Isaac Herzog est arrivé le mercredi 9 mars dans la capitale turque. Il s'agissait de la première visite d'un haut responsable israélien en Turquie depuis 2008. Avant de partir, le président du régime israélien Herzog avait déclaré que les relations israélo-turques sont importantes pour les deux parties et toute la région. Une visite qui a suscité les vives condamnations des groupes de résistance palestiniens, des groupes de résistance palestiniens qui en fait considèrent cette visite en Israël du président israélien comme une des trahisons à la juste cause palestinienne. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.